franceinter.fr.
On s'intéresse à ces patrons qui nous écoutent coûte que coûte.
Pour faire de l'espionnage, il faut user de sa ruse.
Qu'est-ce qu'il y a?
Bonjour, c'est le plombier.
Ouais, ben, sacrez-moi votre camp.
Voyons donc, faites-moi confiance, je suis pas un espion.
Vous voulez un café, patron?
Non, merci.
D'accord.
Alors, il paraît qu'on t'a choisi pour la prochaine mission.
Ouais.
Tu sais piloter un F-18?
Bah, évidemment, les yeux fermés.
Une navette spatiale?
Bien sûr.
Tiens, voilà. Voici ton faux passeport.
Merci.
Et je vais te dire ton itinéraire et tu dois le retenir de mémoire, car prendre des notes, c'est trop dangereux.
Oui, monsieur.
Tu iras à Budapest, Singapour, Bagdad, Moscou, Melbourne, Hong Kong, Turin, Belfast.
D'accord.
D'un avion à l'autre, aucun arrêt nulle part, même pas aux toilettes.
Ok.
Tu vas tout retenir?
Bah, j'aurai pas le choix jusqu'aux prochaines toilettes.
Dans ta mémoire, je veux dire.
C'est clair.
Et tu emportes avec toi cette petite radio spéciale pour les espions.
Chouette.
Et tu l'allumes comme ça. Alors, top délire, top
musique. Service public. Guillaume Erner.
Je l'ai dit, le studio est plein de micros et nous risquons d'être écoutés. On va pourtant évoquer ce thème d'actualité, l'espionnage dans le travail, dans l'entreprise. Évidemment, un thème d'actualité suite à une affaire qui concerne une marque bien connue de meubles en kit, autrement dit IKEA. Et pour parler de cette question de l'espionnage en entreprise, j'ai autour de moi trois regards différents. Tout d'abord, celui de Jean-Marc Manac. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Marc, vous êtes journaliste. Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien. Vous avez publié « La vie privée, un problème de vieux con » aux éditions FIP. À côté de vous se trouve Sophie Nerbonne. Bonjour Sophie Nerbonne.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de la direction des affaires juridiques de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et puis en face de vous, Arnaud Pelletier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en renseignement stratégique, directeur de l'agence Le Privé. Qu'est-ce que c'est qu'un expert en renseignement stratégique? C'est le nouveau nom pour espion?
Alors, la différence sémantique est claire. Quand on parle d'espionnage dans le monde de l'entreprise, on parle forcément d'une démarche illégale. Quand on parle de renseignement, on parle d'une démarche légale et encadrée. Il faut bien faire la différence. Et les affaires dont vous avez parlé, Areva, IKEA, Euro Disney et d'autres, on est dans de l'espionnage qui n'a rien à voir avec les métiers du renseignement. C'est de la magouille de trafic de fichiers. Donc c'est là qui est la différence.
Ça veut dire que très concrètement, si je vous appelle pour vous dire que j'aimerais espionner Stéphanie Texier, la réalisatrice de l'émission, savoir quels sont les mails qu'elle échange avec ses camarades et ses collègues de travail, est-ce que vous accepterez cette mission?
Alors évidemment que je n'accepterai pas et je vous rappellerai la loi en vous disant que c'est puni d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende pour violation de la vie privée.
Très bien Jean-Marc Manac. Arnaud Pelletier donc refuse cette mission. Néanmoins, on peut facilement trouver via Internet une méthode ou une autre pour réussir à espionner ses collègues et ses amis également.
Le truc, c'est qu'il y a quelques années, les dispositifs, les gadgets de surveillance à la James Bond étaient réservés aux services de renseignement. Après, il y a eu quelques grandes entreprises qui avaient suffisamment d'argent pour pouvoir se l'acheter. Aujourd'hui, n'importe quel particulier peut trouver sur Internet notamment des dispositifs pour espionner des téléphones portables, pour espionner des ordinateurs. Il y en a qui sont gratuits pour certains logiciels, d'autres qui sont payants, qui vont coûter quelques dizaines d'euros. C'est-à-dire qu'il y a une véritable démocratisation des technologies et des systèmes d'espionnage et qui aujourd'hui sont de plus en plus utilisés non seulement par des patrons par rapport à leurs salariés mais également par rapport à des maris sur leurs femmes ou des parents sur leurs enfants.
Ou des femmes sur leurs maris aussi.
Ou des femmes sur leurs maris bien évidemment.
Dorothée Barba nous fera tout à l'heure la démonstration de l'un de ces systèmes. Au-delà de ça, avec Internet, avec un certain nombre de sites, je pense évidemment aux réseaux sociaux, Jean-Marc Manac, notre empreinte numérique est telle qu'il est aujourd'hui de plus en plus facile de récolter des informations sur quelqu'un en le googlant, comme on dit, autrement dit en recherchant l'identité de cette personne sur les moteurs de recherche.
Le truc, c'est que depuis quelques années, on n'arrête pas de parler des problèmes de vie privée sur Internet et le fait que les gens étaleraient leur vie privée sur Internet. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ce qui se passe avec Internet, c'est que les gens apprennent à mener une vie publique. Sauf que c'est nouveau, le fait que des particuliers mènent une vie publique. Donc, il faut apprendre à mener une vie publique. C'est pas... Tout le monde ne peut pas facilement parler dans le micro, passer à la télévision. Or, c'est ce qui se passe notamment sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas envisager ça comme un problème, mais plutôt comme une nouvelle façon de mener sa vie. Et c'est clair que quand on commence à partager quelque chose sur un réseau social, social, où on a quelques dizaines, voire quelques centaines d'amis, c'est plus du domaine de la vie privée, ça devient de la vie publique. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi, évidemment.
Et alors ça, évidemment, ça pose des problèmes complètement inédits pour la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés que vous représentez. Et ici, Sophie Nerbonne, on dit que 12% des plaintes que reçoit la CNIL sont issues de salariés qui se plaignent d'avoir été espionnés sur leur lieu de travail. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces salariés ?
Alors, ces salariés mettent en avant, en définitive, les problèmes de légitimité des différents modes de contrôle qu'utilisent les employeurs. Et il faut rappeler qu'effectivement, il revient à l'employeur de contrôler l'activité de son salarié, bien évidemment. Mais ce que l'on a vu se multiplier, c'était effectivement les modes de surveillance. Vidéosurveillance, cybersurveillance au travers de l'activité des réseaux, badgeuses, écoute téléphonique, géolocalisation des véhicules. Donc effectivement, ces modes de surveillance croissants, il est essentiel que la CNIL soit là pour rappeler quelles sont les règles.
Je l'ai dit en préambule, l'affaire qui évidemment occupe les esprits en matière d'espionnage sur le lieu de travail, c'est l'affaire IKEA. Et c'est une affaire qui en particulier a été couverte par le Canard Enchaîné. Bonjour Dominique Simoneau.
Bonjour.
Vous êtes donc la journaliste du Canard Enchaîné qui a fait connaître cette affaire. En quoi consiste-t-elle ? Qu'accuse-t-on IKEA d'avoir fait, Dominique Simoneau ?
Bah écoutez, quand j'ai eu en main les documents, j'étais la première stupéfaite parce que c'est assez grave. Enfin, tous les messages, les courriels que j'avais en main montrent qu'il y avait une espèce de système à l'intérieur d'IKEA qui visait à une surveillance des salariés, mais aussi de clients, et une surveillance sur leurs antécédents judiciaires, sur leur numéro de téléphone, sur leur casier judiciaire, sur leur profil, et tout ça en lien avec un détective privé qui certainement devait utiliser des policiers, enfin qui pioche dans les fichiers de police normalement réservés.
Normalement réservé à la police. Donc aujourd'hui, c'est une certitude, semble-t-il, pour avoir accès au fichier du STIC, donc ce fameux fichier qui récapitule un certain nombre d'informations, vraies ou fausses d'ailleurs, sur les Français. Eh bien, ces personnes chez IKEA ont demandé à ces détectives privés d'avoir accès au fichier STIC d'employés et de clients.
Il y a le monsieur sécurité d'IKEA demandait à un de ses amis détectives, moyennant finance, des renseignements normalement ultra secrets et contenus dans des fichiers de police. C'est-à-dire, c'est une pratique totalement illégale. Le problème qui se pose, c'est est-ce qu'il le faisait de sa propre initiative ou est-ce que la direction générale d'IKEA était au courant? Et d'après les documents qu'on a sortis dans le Canard, apparemment la direction était au courant puisque certains de ces renseignements étaient transmis à des cadres dirigeants.
Alors, comme nous avons sur ce plateau, nous avons Arnaud Pelletier qui est expert en renseignement stratégique, on va lui demander tout de suite, est-ce que c'est facile d'acheter le fichier STIC ou en tout cas le rapport tiré du fichier STIC d'un individu ? Est-ce que vous, par exemple, vous le procurez à certains de vos clients, Arnaud Pelletier ?
Alors, je ne le procure jamais étant donné que c'est illégal. Et pour répondre à votre première question, il faudrait la reformuler au passé. Est-ce que c'était facile ? Rappelons-nous que ces affaires sortent aujourd'hui médiatiquement, mais remontent au début des années 2000. Et il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Donc, est-ce que c'était facile ? La réponse est oui. Est-ce que ça l'est aujourd'hui ? La réponse est non.
Alors, comment était-ce facile ? Comment faisait-on pour obtenir la fiche STIC d'un individu ?
Alors, c'est très clair, c'est pragmatique, c'est du bon sens. Il y a, au début des années 2000, un certain nombre de fonctionnaires d'État, donc police ou gendarmerie, qui avaient des retraites assez jeunes, qui se sont reconvertis dans les métiers de la sécurité privée. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que les métiers de détective. Et qui ont continué à appliquer des habitudes de travail et des méthodes de travail du public dans le privé. Je m'explique. En gros, j'appelle mon ami qui est en poste. Tiens, j'ai besoin d'une info, tu peux me la donner. L'ami en question regarde, la donne et on est dans la dérive, dans l'illégalité. Et c'est l'affaire dont on parle.
On parle de 80€ pour obtenir la fiche STIC d'un individu ?
Je ne sais pas, vu que je n'ai jamais pratiqué ça. Mais j'imagine qu'a priori, vous voyez le bénéfice. J'appuie sur le clavier de l'ordinateur, j'ai une action, je la donne au téléphone et je gagne un peu de sous. Je termine juste pour dire que c'est un temps révolu. La loi est passée par là et aujourd'hui, ces pratiques ne se font.
La CNIL a-t-elle laissé ce fichier qui est monstrueux, qui est très largement inexact, qui était une passoire puisque tout le monde pouvait obtenir les fiches STIC d'un individu ?
Alors, c'est intéressant d'avoir en tête l'année 2009, parce que justement, 2009 correspond à la date à laquelle la CNIL a mené un très vaste contrôle auprès du STIC, qui est donc ce grand fichier de police qui recense toutes les infractions constatées, mais qui, effectivement, au-delà des auteurs d'infractions, a également non seulement les personnes mises en cause, mais également les victimes, les témoins. Et elle a révélé publiquement et transmis tous les dysfonctionnements de ce fichier, c'est-à-dire effectivement les failles au niveau de l'enrichissement, les risques d'erreur lors de la codification des motifs d'inscription, les risques de détournement de finalité, et c'est typiquement ce à quoi on fait référence ici.
C'est-à-dire que Pelletier évoquait tout à l'heure.
Exactement, c'est un outil légitime pour la police, et le problème des fichiers qui sont constitués, c'est qu'ils soient détournés de leur finalité, c'est-à-dire qu'ils soient transmis à des personnes qui n'ont pas à y avoir accès. Et en l'occurrence, la CNIL a demandé, et on peut dire qu'il y a un certain nombre de progrès qui sont effectivement réalisés, qu'il y ait un renforcement, un, des niveaux d'habilitation, deux, d'une traçabilité des accès, c'est-à-dire que cette trace des accès soit exploitée. C'est-à-dire qu'on soit en mesure de mener des audits pour savoir qui a consulté ce fichier et pour quelles raisons, de façon effectivement à limiter ce risque.
Service public sur France Inter, un service public consacré à l'espionnage en entreprise, en compagnie d'Arnaud Pelletier, expert en renseignement stratégique, de Sophie Nerbonne de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, de Jean-Marc Manac, journaliste, auteur de La vie privée, un problème de vieux cons, éditions FIP, et de Dorothée Barba, notre reporter, qui vient de nous rejoindre. Salut Dorothée.
Bonjour Guillaume.
Une question qui nous vient d'Internet, qu'en est-il des systèmes d'écoute et d'enregistrement placés dans des doudous et des sacs chez les assistantes maternelles par des parents? Il y a eu une affaire récente à ce sujet. Arnaud Pelletier.
Alors, l'affaire récente a conclu, le juge a conclu que c'était légitime, légal et proportionné. Donc, il a donné raison aux parents qui avaient placé un enregistreur numérique dans un doudou car ils soupçonnaient la nounou de maltraitance sur leur enfant. Il se trouve que la nounou mettait l'enfant à la cave. Voilà. Le problème
avec
se pose
le doudou.
Avec le doudou, ce qui a permis de l'identifier. Le problème se pose, où est la limite entre la violation de la vie privée ou pas? Et là, on pourrait se dire, on a violé la vie privée de cette professionnelle de la petite enfance. En même temps, il y avait la maltraitance d'un enfant. Et le juge a tranché en disant, voilà, cet intérêt est supérieur à la violation de la vie privée.
Ça veut dire, Sophie Nerbonne, qu'on a le droit d'espionner donc sa nounou. Alors, c'est maintenant officiel.
Je n'irai pas jusque-là, parce que vous avez vu effectivement que c'est une décision très particulière. Il peut y avoir des décisions contraires. Et je rappellerai quand même le principe qui est que l'enregistrement des conversations téléphoniques, donc sur un lieu de travail, est réglementé parce que, un, cela doit se faire avec, une fois encore, ce principe maître en matière de protection des données, qui est la transparence. Il faut que les gens sachent qu'ils sont écoutés. Ça a un effet évidemment préventif.
Évidemment, c'était pas le cas là.
Et sur les lieux de travail, il est nécessaire, d'une part, que les salariés soient informés de cet enregistrement, qu'ils aient la possibilité de désactiver le cas échéant pour passer les appels privés. Et cela fait partie aussi des plaintes de salariés dont vous nous parliez tout à l'heure et qui arrivent à la CNIL.
Mais Arnaud Pelletier, vous me disiez tout à l'heure que, évidemment, lorsque c'était illégal, vous ne meniez aucune enquête. Néanmoins, les entreprises qui font appel à vos services le font toujours en disant, j'imagine, qu'elles soupçonnent des vols, qu'elles soupçonnent des malversations. Bref, elles donnent toujours un motif légal, même lorsqu'elles savent qu'elles mentent.
Alors, déjà, bien heureux celui qui sait qu'elles mentent. Donc, mon travail est déjà d'essayer de détecter et de trouver la légitimité. Je reviens juste sur l'histoire de l'enregistrement. Rappelez-vous l'affaire Bettencourt, le majordome avec son dictaphone. Cette preuve, qui a été enregistrée à l'insu des personnes, a été reçue au tribunal. Donc ça veut dire que rien n'est toujours... C'est pas manichéen. C'est toujours l'appréciation en fonction des éléments, en fonction du contexte, qui va faire que je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Il faut bien voir qu'au pénal, ce n'est pas aussi tranché que dans les affaires en entreprise.
Mais dans le cadre de l'affaire IKEA, lorsqu'on espionne donc des salariés, lorsqu'on demande leur fichier STIC, vous avez dit tout à l'heure, c'est illégal.
Complètement.
Mais néanmoins, la direction d'IKEA se drapait peut-être dans ses peurs, ses craintes que l'un de ses salariés soit un voleur, un être malhonnête, que
sais-je. Peu importe. La limite est franche.
Arnaud Pelletier, vous, vos clients, ils utilisent parfois ce type de dispositif?
Alors, ils peuvent utiliser. Moi, je vais vous parler de monsieur et madame Michu, qui sont un peu tout le monde, vous, moi. Vous allez sur Google et vous tapez micro-espion, logiciel espion, téléphone espion. Vous allez avoir X milliers de requêtes et pour moins de 100 euros, vous allez pouvoir télécharger à peu près tout ce que vous voulez. Là-dessus, il y en a la moitié qui fonctionne. Le vrai danger de l'espionnage, et quand je dis espionnage, rappelez-vous, en filigrane, il y a illégal, c'est monsieur et madame tout le monde. Et monsieur et madame tout le monde peut être aussi un chef d'entreprise, accessoirement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on achète à Hong Kong des batteries de téléphone dans lesquelles il y a une carte SIM qui renvoie tous les messages. Tout le monde peut espionner tout le monde, c'est un fait. Le développement du Web 3.0, des réseaux sociaux, des habitudes de communication à outrance font que les clients dont vous me parlez, qui peuvent venir me voir, ne se rendent des fois même pas compte qu'ils sont dans une démarche illégale. Oh là là, mon fils se drogue. J'ai besoin de savoir ce qu'il fait, où est-ce qu'il va. Ben, j'installe un petit logiciel dans son iPhone ou Android, on va citer deux marques pour pas qu'il y ait de soucis, pour pouvoir savoir ce qu'il fait. Et mon fils est majeur, j'ai pas le droit de le faire. Mais le père de famille qui l'a fait, lui, il se pose pas cette question-là. Et donc, le travail du professionnel est de dire, attention, la limite, elle est là, vous n'avez pas le droit de faire ça, on peut faire autrement, mais ça va être dans une démarche légale.
Faire autrement, c'est-à-dire?
Et ben, par exemple, sur le fils qui se drogue, on va diligenter une enquête proportionnée pour essayer de suivre, faire une filature, faire du travail de terrain.
La filature, elle est légale.
Mais bien sûr, et heureusement. Je prends ce père de famille, c'est quand même important qu'il puisse, s'il le peut, sortir son fils de devoir.
Arnaud Pelletier.
La règle est claire, on peut effectivement contrôler, mais ça coûte très très cher, ça demande des compétences importantes, donc ça veut dire qu'en règle générale, il faut partir du principe que ces dispositifs sont suffisamment élaborés pour qu'on ne les voit pas, et le pire ennemi, c'est quand même le téléphone portable.
Pourquoi?
Parce que c'est celui qu'on a avec nous, qu'aujourd'hui il est complètement dans votre poche, il est géolocalisé, c'est un ordinateur votre téléphone aujourd'hui.
Donc
il y a toutes vos données. Donc
il
faut faire très attention avec ces démarches-là.
Dernière question, Arnaud Pelletier, est-ce qu'on a fait appel à vos services pour chercher à savoir si on était espionné? Est-ce que vous faites du contre-espionnage?
Oui, ça m'arrive très régulièrement, on fait du contre-espionnage économique, où là on va justement essayer, notamment sur des versions logicielles, mais c'est des démarches qui sont réservées aux entreprises parce que ça nécessite de gros moyens, et pour les particuliers dans le monde de l'entreprise ou ailleurs, la meilleure démarche quand on a peur par rapport à son téléphone, c'est de jeter son téléphone. C'est ce qui coûtera le moins cher.
Jetez votre téléphone, jetez-le immédiatement et vous pouvez l'échanger par exemple contre le livre de Jean-Marc Manac, La vie privée, un problème de vieux con aux éditions FIP. Merci à tous les